Bonjour. Alors d'abord, merci beaucoup parce que c'est très, très éclairant, en tout cas pour moi, sur, et notamment sur les patients hypoactivés. Et justement, ma question porte là-dessus, sur la difficulté et les résistances qu'ils présentent, et notamment les résistances justement à entrer en lien, donc à parler d'eux, donc à alimenter, parce que quelque part, ce qui est important, c'est d'alimenter la relation pour créer du lien, quel que soit l'impact finalement des significations, de la pensée, de l'explication. Mais pendant qu'on fait ça, on alimente aussi le lien avec le patient. Et ces patients, enfin, je pense particulièrement à deux patientes qui résistent énormément, par exemple, au travail de groupe. Une qui résiste même aux séances thérapeutiques en ne venant qu'une fois toutes les trois semaines. Enfin, voilà, ces résistances-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller les dissoudre petit à petit? Alors, peut-être vous allez me dire juste le temps.
Non. Je pensais par rapport à ce type de personnalité. Je l'évoquais tout à l'heure, ce sont des gens qui sont comme assis dans un hall de gare et ils attendent qu'on vienne les chercher. On leur a dit « casse-toi, bébé, ne dis rien, n'exprime rien ». Et d'une certaine manière, ils ont dû s'adapter, accepter ça. Donc ils sont très profondément, c'est imprimé dans leur fonctionnement, ils sont assis dans ce hall de gare et ils attendent. Ils attendent quoi ? Ils attendent que de découvrir qu'il existe une figure d'attachement, ce sera le thérapeute, mais qui fera les premiers pas. Alors évidemment, ça va à l'inverse de d'un abord classique qui serait que on attend analyste, thérapeute, on attend, on est présent, mais on attend et c'est le patient qui prend l'initiative. Non. C'est tout à fait l'inverse. Et si je ne prends pas l'initiative de quelque chose, on risque de passer énormément de temps dans le vide, dans cette impression de résistance, que rien ne se passe. Mais si je me lève, à un moment donné, on est assis face à face, il se passe rien, enfin rien entre guillemets, hein, mais c'est l'actualisation justement de ce scénario où il ou elle est détaché de moi. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle initiative je peux prendre? Alors, évidemment, ce sera très subjectif de ma part, c'est-à-dire, il y a des gens avec lesquels je peux le faire vite, d'autres moins vite, hein, mais je pourrais à un moment donné me lever. Et juste mettre une main sur l'épaule, à côté. Rien dire. J'ai vu parfois un patient ou une patiente se mettre à pleurer. Juste pleurer, c'est tellement et trop émouvant. C'est-à-dire que c'est ça qu'il ou elle attend. Elle ne peut pas le demander, mais elle n'a même pas les mots pour le demander. Et voilà que l'autre a capté. C'est ça l'accordage aussi. Et donc je réponds de cette manière tellement simple. En retour, je lui demande rien. Puis ça dure quelques instants, il se passe ce qui se passe. Alors, ça peut être aussi, et ça arrive, la personne se raidit encore plus, mais elle dira, un moment ou un autre, un peu plus tard, j'avais tellement envie de me laisser aller, mais j'avais tellement peur aussi. Tellement peur du quoi? Que le scénario se répète. Si je me laisse aller, je vais de nouveau être rejeté. Alors, d'un autre côté, oui, il faut du temps. En même temps, il faut du temps. Mais je crois qu'avec ces personnalités préverbales, du trauma de l'attachement préverbal, soi-même thérapeute, on doit avoir une présence humaine active. Souvent.
Une autre question, Jean-Michel.
Oui. Guy, merci infiniment de ton exposé qui était extrêmement clair continue à apporter des informations qui éclairent sur la diversité des formes thérapeutiques que nous avons tous. Les informations que tu portais sur l'attachement concernent des relations extrêmement primaires, et je pense que ça rejoint tout ce que ont essayé de théoriser nos collègues psychanalystes qui s'intéressaient au narcissisme primaire. moi, mon expérience de la bioénergie à travers mon expérience de travail avec Pierre Akos m'avait amené à penser que la bioénergie ne théorisait absolument pas à ce moment-là ce que j'appelais le maternage. Et tout ce que tu décris, ce sont des actions de, entre guillemets, maternage, extrêmement archaïque, extrêmement basique.
Oui.
Donc, je trouve ça aide beaucoup pour comprendre l'apport qu'ont été toutes ces thérapies corporelles. Alors, j'ai envie d'ajouter un deuxième point. Ce qui me paraissait manquer dans l'approche de la bioénergie à l'époque, même dans le travail de Pierre Akos, c'était la compréhension des mécanismes de la régression. Parce qu'en fait, il y a les relations extrêmement archaïques que tu as très bien décrites à travers les travaux de Babi et d'autres. Et puis, il y a progressivement une construction, et à un moment donné, dans cette construction, le sujet construit une personnalité dans laquelle il devient autonome, il se détache. Et alors, à ce moment-là, on rentre dans un autre type de relation avec le patient. Et je pense que c'est important de dire, et en particulier sur ce que tu as dit sur apprendre les limites. Moi, j'ai pensé souvent que l'apprentissage de la loi, il commençait d'abord par l'apprentissage des limites corporelles entre parents et enfants.
Bien sûr.
Les limites émotionnelles entre parents et enfants. Et que si ça ne se fait pas, l'enfant n'apprendra jamais ce que c'est que la loi et que à passer un stade supérieur de la compréhension de la limite universelle. Voilà. Donc, merci beaucoup de ton apport pour m'aider, moi, en tous les cas, à situer les choses les unes par rapport aux autres.
Oui.
Je suis très heureux que nous t'ayons invité.
Ah, merci beaucoup. Et alors, pour juste un mot, je peux, pour compléter ce que tu dis, et bien sûr que ce que tu as dit, je le comprends parfaitement, et je suis en parfait accord. La première étape est celle de la relation, d'une relation plus symbiotique, hein, plus symbiotique. Puis la deuxième étape, une étape de séparation-individuation qui va précéder l'étape génitale infantile, œdipienne, etc. Mais alors parfois, quand j'entends dire ou je lis que il faut aider cette personne à se séparer davantage. On sait qu'elle n'a pas eu possédé sa figure d'attachement. Comment on peut se séparer de quelqu'un qu'on n'a pas possédé? C'est un exercice purement intellectuel. Donc bien sûr que il faut faire l'expérience, alors physiquement, voire à distance, de posséder l'autre et d'être possédé par l'autre pour, lorsque c'est suffisamment plein, pouvoir dire au revoir.